Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder ce qui se passe au Yémen. Vous en souvenez, il y a deux semaines, nous avons eu en fait une émission sur le Yémen, une émission sur en fait la riposte de la résistance yéménite qui avait en fait lancé des attaques aux drones et aux missiles contre les positions des Émirats arabes unis, un pays qui en fait participe à cette guerre d'agression contre le Yémen dans le cadre de cette soi-disant coalition, si vous voulez, dirigée par l'Arabie saoudite. Et la résistance yéménite avait promis des frappes douloureuses contre les Émirats arabes unis et contre l'Arabie saoudite en cas de la poursuite des agressions contre le peuple yéménite. Et c'était après cette première riposte de la résistance yéménite aux des Émirats arabes unis qui a eu en fait ces bombardements massifs, ces frappes aériennes massives contre le peuple innocent yéménite à tel point que la coalition d'agression dirigée par l'Arabie saoudite a mené une frappe aérienne contre une prison, si vous voulez, en territoire yéménite, d'une frappe qui a été vivement condamnée de la coalition d'agression qui a mené des attaques contre des zones résidentielles, surtout en fait dans la capitale yéménite de Sanaa. Mais en dépit de tout cela, il n'est pas question, si vous voulez, pour la résistance yéménite de céder aux pressions et aux menaces. La preuve en est cette deuxième riposte de la résistance yéménite contre les Émirats arabes unis et contre l'Arabie saoudite. Plusieurs cibles en profondeur du territoire émirati et saoudien ont été déciblées une nouvelle fois par la résistance yéménite. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Toulouse un analyste politique et spécialiste des questions internationales qui est en ligne avec moi pour cette émission. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Novostine, bonjour à tous vos auditeurs et bonjour à votre invité, Maître Develay, je crois.
Vous l'avez dit, l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est un juriste français spécialiste des questions internationales, M. Dortiguier, un vrai analyste des questions relatives au Moyen-Orient. Il s'agit de Maître Arne Develay qui est avec moi pour cette émission depuis Damas. Maître Develay, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, merci à vous, bonjour à toute l'équipe, bonjour aux téléspectateurs et bonjour au Dr Dortiguier.
Maître Develay, on va commencer avec vous aujourd'hui, notre émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet, votre analyse s'il vous plaît.
Alors, à titre liminaire, il faudrait informer aussi nos téléspectateurs que la nuit dernière, la coalition d'agression menée donc par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont lancé une offensive aérienne extrêmement violente qui a détruit des infrastructures, dont un hôpital, et qui a fait beaucoup de dégâts et beaucoup de victimes, encore une fois. Pas moins de 16 raids, ce qui, à ce jour, s'apparente à l'offensive aérienne la plus fournie depuis le début du conflit. Et que, visiblement, vraisemblablement, ce à quoi nous assistons est une escalade maintenant, puisque, visiblement, les Émirats, malgré les accords qu'ils avaient conclu avec la résistance en 2019 portant sur l'arrêt du soutien à des forces auxiliaires sur le terrain avait récemment réactivé ces forces, notamment un groupe qui s'appelait les géants importants, quelque chose comme ça, qui s'en sont pris donc aux forces de la résistance sur le front de Chabwa afin d'essayer de briser le siège de Marib. Et cela, bien sûr, a été combiné à l'interception par la résistance d'un navire qui au lieu d'être un navire humanitaire, était en fait un navire rempli d'équipements de surveillance et d'équipements et d'armes, d'armement, en provenance des Émirats. Et si vous voulez, de fil en aiguille, les frappes sur les troupes d'Ansar Allah et de l'armée yéménite, malgré les avertissements de la résistance, ont mené cette dernière à prendre des actions décisives. Et vous l'avez souligné en ouverture, effectivement, envoyer donc des drones et des missiles au cœur des Émirats, sur l'Émirat d'Abu Dhabi. Visiblement, cela n'a pas dissuadé Abu Dhabi de se désister. Bien au contraire, puisque l'année dernière, encore une fois, c'est cette fois-ci donc les avions émiratis et saoudiens qui ont vraiment écrasé de bombes des résidences, des endroits qui n'avaient absolument aucune importance militaire, et qui plus est des antennes de relais de communication, ce qui fait que visiblement on peut maintenant percevoir une stratégie qui vise à complètement isoler le Yémen du reste du monde afin de pouvoir, si je puis dire, perpétrer des exactions loin de toute attention médiatique. De toute évidence, la résistance va riposter. On apprend maintenant, porte-parole de l'armée yéménite a laissé entendre que Dubaï était dans la base de données aussi. Mais aussi certainement le port d'Elat, puisqu'on sait maintenant de manière avérée que les Israéliens participent à ces opérations, que le gouvernement de l'entité sioniste a lui-même proposé son aide de manière ouverte. Et donc on semble s'acheminer vers une escalade, en tout cas au jour d'aujourd'hui.
Monsieur Dortiguet, vous avez entendu Maître Devolé. Maître Devolé dit que voilà... Et le porte-parole de l'armée yéménite l'a confirmé que voilà, de Dubaï est désormais sur la liste des cibles à viser par la résistance yéménite. Maître Zolé dit que voilà, une autre cible pourrait être le port israélien d'Ilat, monsieur Dortiguet, parce que en fait, il y a des preuves comme quoi le régime israélien aussi participe à ces raids contre le peuple yéménite. Votre lecture des faits, s'il vous plaît.
Eh bien, si je puis en effet prolonger ce que vient de dire Maître Arnaud Velay sur Eilat, je dirais que cette implication israélienne pourrait être aussi une sorte de provocation israélienne pour pouvoir justement être atteinte. C'est-à-dire crier à l'agression, déformer bien sûr la guerre de résistance yéménite en guerre, disons, directement dirigée contre elle, je parle de l'entité sioniste, et donc par là même entraîner ses alliés. Car c'est là le sens de la politique constant, le sens constant de la politique israélienne, c'est de faire la guerre par ses alliés. Et je crois que c'est une manière de vouloir fixer, peut-on dire, les anglo-américains, et même, disons, plus large que cela, pour pouvoir, disons, déplacer le sens de cette guerre d'agression menée par l'Arabie saoudite et ses alliés donc, contre le Yémen, en guerre, disons, on criera dans la presse ici, d'extermination, vous voyez, d'autres mots comme cela, enflés, disons, avec une enflure de la propagande, contre l'entité sioniste. Tout ceci pour brouiller les cartes. Vous voyez, c'est, je crois là, le grand danger, le danger futur. Parce que sur le plan, sur le terrain, bien sûr, la victoire de la résistance yéménite est éclatante, bien sûr. Ces bombardements de terreur qui ont lieu donc sur les hôpitaux, sur les habitats civils, etc., ressemblent évidemment à ces bombardements de terreur, vous savez, qui ont accompagné, si je puis me permettre de remonter loin dans l'histoire, qui remonte à ce mois de février 45, lorsque Dresde était touchée chez nous, par exemple, par l'aviation anglo-américaine en Allemagne, et qu'à ce même moment, les accords sur le croiseur Quincy, vous savez, faisaient que l'Arabie Saoudite devenait un allié, un client, avide des Américains. Je crois que ce baptême de l'Arabie Saoudite, ce baptême, disons, je ne dis pas de sa naissance, mais ce baptême, disons, de cette alliance, disons, avec les forces occidentales, disons, se manifeste encore aujourd'hui. Et là, si c'était le cas, si notre analyse est juste, on verrait qu'il y a une complicité de naissance, si je puis dire, complicité structurelle entre la politique suivie par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite en premier, et les visées israéliennes. Israël est une puissance offensive qui veut toujours avoir le masque d'une victime. Je ne sais pas si je me fais clairement entendre, mais c'est là le véritable danger de la stratégie actuelle, voyez-vous, qui se dessine dans ce... C'est-à-dire qu'on passe une guerre d'agression contre le Yémen à finalement une guerre d'agression, disons, de l'entité sioniste contre tous les États de la région, voyez-vous, en se présentant, je répète, comme une victime, alors qu'en réalité, elle est le moteur de l'agression, mais qu'elle ne fait pas elle-même, qu'elle fait faire par ses alliés.
Maître de Velay, M. Dortiguet parle d'une complexité de politique, connivence de politique entre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et Israël dans cette guerre d'agression contre le Yémen. Maître de Velay, en fait, les Émiratis, les Israéliens, les Saoudiens, pour reprendre en fait l'analyse de M. Dortiguet, ont-ils le feu vert des États-Unis ou pas?
Oui, on peut penser qu'en tout cas, ils ont le feu vert d'une faction au sein de l'appareil américain, parce que c'est celle de Joe Biden, qui lui-même n'est qu'un exécutant, un fidéicommis, j'allais dire, est une question secondaire. Mais le lobby israélien à Washington, bien sûr, a toujours poussé pour, déjà dans le cadre de l'administration Trump, pour cet accord du siècle, alors même que les Palestiniens étaient complètement laissés de côté, avec ces accords de normalisation dits Abraham, dont on a pourtant pu voir que récemment, et notamment vis-à-vis des Émirats arabes unis, ils avaient du plomb dans l'aile. Et là, quelque part, je dois dire que par la force des choses, il y a une dynamique à l'œuvre qui semble plutôt porteur pour les Israéliens, dans le sens où les Émirats vont avoir besoin de garder la face, sauver la face. Et c'est certainement dans ce contexte-là une occasion aussi de relancer le débat qui aussi est en perte de vitesse, grâce notamment à la diplomatie régionale exercée par la République islamique d'Iran auprès de ses voisins du Golfe Persique, d'un OTAN arabe. Et ça, c'est inquiétant, parce que après, il sera très facile pour les médias impériaux d'établir un trait d'union entre la résistance yéménite et la République islamique d'Iran, et ce faisant, remettre sur la table cette idée d'OTAN arabe et retourner ensuite, si je puis dire, les opérations vers ce qu'eux considèrent leur cible principale, à savoir Téhéran.
Monsieur Dortiguet, cette tentative de rapprochement entre Téhéran et les pays arabes de la région inquiète, comme l'a dit Monsieur De Velay, en fait, certaines, si vous voulez, acteurs, certaines parties. Est-ce de votre avis également?
Oui, en effet. Je me permettrai de répondre en même temps que, enfin, après Maître De Velay, à votre question précédente. Je crois que c'est là le sens. C'est un premier sens à établir. Quelle que soit l'attitude, bien sûr, des démocrates, etc., par rapport aux Israéliens, est favorable. Je crois qu'il y a une pression, cependant, exercée sur l'exécutif américain pour qu'il intervienne. Et je crois que ceci se fait, une pression exercée par l'entité sioniste. Et il est certain que l'entité sioniste parle en maître dans cette région, elle parle en maître aux Américains, parce qu'elle elle joue sur plusieurs cartes. Vous savez, pour connaître un individu, connaître une espèce, il faut souvent regarder sa naissance. À sa naissance, il y a eu plusieurs personnes dans le berceau de l'entité sioniste. Il y a eu l'Est et l'Ouest. Voyez-vous, aujourd'hui, l'entité sioniste regarde, bien sûr, davantage vers l'Ouest. Oui, vers l'ouest, c'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre, etc., et l'OTAN. Mais elle a également un œil sur l'Est. C'est-à-dire que le grave danger, c'est de déséquilibrer les rapports de grandes puissances, les faire agir dans un sens, je parle des grandes puissances comme la Russie, comme la Chine, comme les États-Unis, ou l'Europe, les faire agir au-delà des limites qu'elles-mêmes se proposent. C'est-à-dire jouer la carte de la catastrophe, en sachant qu'Israël sera toujours, bien sûr, préservé par les différentes armées. Vous voyez, c'est un jeu, je ne dirais pas suicidaire, c'est un jeu qui touche à la folie, qui n'est pas raisonnable et qui un jour entraînera de très très graves conséquences. Mais entre ces conséquences dernières et la situation d'aujourd'hui, il y a malheureusement toute une liste de crimes, une liste de souffrances, voyez-vous, auxquelles nous pouvons nous attendre. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, dans les circonstances actuelles, je dis ça par prudence, formuler un jugement, disons, optimiste. Il ne faut pas être pessimiste, mais il faut, disons, être très prudent, car nous avons affaire à une guerre ouverte, en même temps qu'à une guerre, je ne dirais pas secrète, mais une guerre, disons, plus sourde, qui cache, disons, ses objectifs. Nous avons affaire, disons, à des gens qui sont, je parle de l'entité sioniste, qui ne peuvent pas supporter un règlement quelconque en Orient, un règlement pacifique, disons, mais que ce soit même un armistice de très longue durée. Il leur faut une agitation permanente, exactement comme beaucoup de leurs idéologues, qui se retrouvent chez les conservateurs américains, prêchent la révolution permanente. Une sorte de trotskisme, voyez-vous, qui est toujours, si je puis dire, revigoré comme on revigore un vaccin, voilà, comme on reprend un vaccin, si je puis me permettre d'employer une métaphore actuelle. Et ceci donc fait qu'il faut, pour résister à ces agressions, une capacité militaire, bien sûr, c'est ce que Ansar Allah montre, mais en même temps aussi une instruction politique. Il faut une sorte de vision, je ne dis pas religieuse du monde, mais une vision politique du monde, qui est une sorte de prudence, si je puis dire, tirée de l'histoire, vous voyez, et qui fasse que des États qui sont peut-être différents dans leur conception, l'un qui soit peut-être plus laïque, l'autre qui soit plus religieux, voit l'ennemi commun. L'ennemi commun, c'est le déséquilibre. L'ennemi commun, c'est l'entrée en guerre, la guerre permanente. Je crois qu'il faut absolument éviter cet écueil, qui est un écueil satanique, voyez-vous, et disons que savoir faire des concessions selon la justice, voyez-vous, mais éviter que nous rentrions dans une véritable guerre, disons, permanente, une guerre terroriste, qui pour certains a des aspects révolutionnaires, d'autres de quelque aspect que ce soit. Nous avons affaire à des laboratoires qui lancent des virus, si je puis dire. C'est une métaphore, bien sûr, que je donne. Et ces virus-là, ces virus de la guerre civile, ces virus de, disons, de la terreur, ce sont des, disons, des armes qui sont destinées à durer longtemps, voyez-vous. Il faut donc avoir une perspective, disons, de longue durée. Accepter même de faire des concessions, c'est, je crois, ce que fait le gouvernement de la République islamique d'Iran. Je ne dis pas des concessions sur le fond, mais savoir, disons, réaménager une stratégie, car il importe avant tout de préserver la paix. Une paix sur la justice, oui, mais une paix cependant.
Maître de Volley, en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, la coalition d'agression a ciblé même des relais d'antennes de télécommunications. L'objectif en est, selon vous, d'isoler, si vous voulez, le Yéménite du reste du monde pour passer ensuite, si vous voulez, au massacre, peut-être aux exactions. Comment peut-on expliquer, Maître de Volley, vous êtes juriste international, comment peut-on expliquer ce silence de ce qu'on appelle la communauté internationale face à ce qui arrive aujourd'hui aux des civils innocents yéménites?
Je pense qu'on peut l'expliquer par le fait que le droit humanitaire international et les droits de l'homme ne sont en fait que des éléments de langage utilisés par certaines puissances occidentales depuis un certain nombre d'années, que le vrai droit international, c'est quelque chose qui se base sur un équilibre de force et de rapport de force, et qu'au travers de ce rapport de force, un équilibre est atteint et un consensus se dégage, à travers lequel ensuite des règles de droit coutumier peuvent émerger. Là, en l'occurrence, nous sommes en présence d'une situation où, sur le plan, sur le théâtre yéménite, toute la puissance, si je puis dire, des monarchies golfiennes et de leurs équipementiers occidentaux, le tout chapeauté par la classe médiatique, travaille de concert pour mitiger toute information et toute connaissance du public. Vous ajoutez à cela, bien sûr, les autres foyers de déstabilisation dans le monde qui font que le Yémen, quelque part, n'est peut-être que le deuxième ou troisième sujet au jour le jour dans les actualités. Et c'est celui qui forge, si je puis dire, le narratif qui permet de mettre en avant tel ou tel dossier qui, ensuite, peut être en mesure d'actionner des mécanismes internationaux, des commissions d'enquête. Mais lorsque vous avez en même temps des questions financières liées au financement de ces institutions, où on sait maintenant depuis des années que l'Arabie Saoudite, pour ne citer qu'elle, mais elle n'est pas la seule, finance des pourcentages importants des budgets, arrive à user de son influence pour invalider des résolutions de l'Assemblée générale portant sur une commission d'enquête, par exemple, on réalise que les Nations Unies, puisqu'on parle du système international, à ses limites. Il a montré ses limites là dans cette affaire du Yémen, où malgré les déclarations plus ou moins timides d'Antonio Guterres et de certains membres de son organisation, on s'aperçoit que le Yémen est livré à lui-même. Et quelque part, c'est terrible pour l'état de droit, c'est terrible pour la sécurité internationale, et c'est terrible pour la morale humaine, si je puis dire, parce qu'on ne peut pas ignorer ce qui se passe, et malgré tout, rien n'y fait, et nous ne sommes pas, visiblement pour le moment, en tout cas, proches d'une solution d'apaisement, et au contraire, ce sont les populations civiles qui en pâtissent le plus. C'est une guerre d'attrition qui ne fait pas secret de sa nature, hein. Il s'agit de casser la morale de la résistance yéménite, peut-être sur la durée, de créer tellement de malheur et de désespoir que la population civile locale se tourne contre le front de la résistance. Enfin, en tout cas, le comité de Salvation, National Salvation, donc la résistance yéménite dans son ensemble, et yes. Ce faisant, mettre les pressions sur des négociations politiques à venir qui permettent à la coalition de tirer les marrons du feu.
Merci infiniment, Maître Arnaud Develé, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à vous, Pierre Dortillier, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.